Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE, direction Monday Night Raw, le Go Home Show. En ligne de mire, Money in the Bank. Nous sommes le 12 juillet 2021 et pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode exceptionnel, j'ai avec moi El Papito. Salut papy.
Bonjour mes enfants, bonjour patron, comment ça va ?
Ça va, on en parlait en off, là, le soleil est de retour. Laissez le soleil entrer dans le Thunderdome.
Tout à fait, on laisse le soleil entrer, puis nous on se casse du Thunderdome, c'est le dernier show, enfin.
Ah ouais, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Tu l'as dit, direction le Texas dans quelques jours pour le deuxième pay-per-view ouvert au public, Money in the Bank, au Texas, Houston. C'est bien ça ? Non, Fort Alamo, Houston ?
Je l'aurais dit Houston, perso. Alors après, comme il y a le McDonald qui est juste avancé au Texas, peut-être que du coup, on se mélange les pinceaux, mais il doit y avoir un show qui est Houston.
Ah, le SmackDown du Go Home Show est en live ?
Ah bah oui, vu que c'est le dernier Thunderdome, c'est que donc le SmackDown est en live.
Oh là là, bah tu m'apprends quelque chose, je ne suis au courant de rien, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le catch, s'il te plaît ?
Non.
Par contre, non. Alors, quelqu'un qui a expliqué quelque chose ce soir, c'est Xavier Woods. Xavier Woods, il a donné une bonne leçon à Bobby Lashley, puisqu'on a commencé direct, papy, avec un match. Alors, pas de promo, pas de revolving door de saloon avec AJ Styles qui nous explique qui fait quoi, comment, qui sort avec qui pendant une demi-heure. Non, on est à Monday Night Raw. Bobby Lashley, il en a marre. Bobby Lashley, il veut la castagne. Bobby Lashley, il veut détruire Xavier Woods. Donc, on commence directement avec ce match. Le Almighty, qui assoit sa domination très rapidement en balançant Xavier Woods à travers les quatre coins du ring. Mais le membre du New Day utilise ça. Il est rapide, il est agile. Et il sautille dans tous les sens. On a encore eu un match avec une démonstration d'agilité et de performance de la part du membre du New Day. Ils montent tout en haut. On se retrouve tout en haut sur la troisième corde, avec le champion qui balance Xavier Woods sous les yeux du pauvre Kofi Kingston qui ne peut rien faire finalement. Et Xavier Woods finit la tronche dans les escaliers. Xavier Woods parvient à revenir dans le match, il place un super kick désespéré, il place un DDT, mais Bobby Lashley est trop fort, il slam Xavier Woods à gauche, à droite. Xavier Woods, lui, se bouffe un énorme spear, mais est-ce qu'il a été trop orgueilleux, trop colérique, ce Bobby Lashley, puisque au lieu de tenter le tomber, il a voulu placer le Hurtlock, et finalement on peut pas lui en peut-être pas lui reprocher, parce que le Hurtlock c'est quand même ce qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Il a battu l'ancien champion grâce à cette prise. Et bien Xavier Woods en profite et il place un roll-up pour la victoire surprise. Alors là, messieurs dames, coup de tonnerre dans le Thunderdome pour le dernier match de Bobby Lashley en intérieur. C'est une grosse défaite. La défaite se lit sur son visage. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Bobby Lashley est furieux, mais il semble anéanti, vide, et la colère tout en même temps. Là, je pense qu'il est passé par les 7 stades en un éclair. Waouh, comment tu peux te remettre de ça, papy, après un tel choc ?
Voilà, c'est le fond du trou là. Il enquille les contre-performances, le Bobby. Il y a déjà. Il doit y avoir au moins, je dirais, 2 défaites contre Kofi. Là, il s'en prend une contre Xavier Woods. C'est quoi la suite ? Il va perdre contre MVP ? Non, mais qu'est-ce qui se passe, Bobby ? Là, ressaisis-toi, mon Bobby. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Et par contre, Woods, il a tiré profit complètement des errements de Bobby Lashley. Puis il se prend une bonne victoire de prestige. Effectivement, la dernière victoire contre le champion du monde au Thunderdome, ça sera Xavier Woods.
Ouais, alors j'ai trouvé que c'était un excellent match. C'était plutôt bien foutu parce que ça va vraiment guider un petit peu l'état d'esprit dans lequel Bobby Lashley va se retrouver là, quelques jours avant Money in the Bank. Hein. Bah, d'ailleurs, Bobby Lashley se barre. Hein. Il s'est barré.
C'est ça, il quitte le building. Hop, j'en ai ras le bol, je me casse.
MVP nous rassure, dit vous inquiétez pas, il sera bien là au MVP Lounge ce soir. On a une petite soirée, une petite fête, bah, une sorte de fin de soirée, quoi, pour célébrer voilà, le champion avant de retourner sur la route, avant de reprendre le bus, le camion, les cars. Hein, on va faire une petite soirée de dépendaison de crémaillère, finalement. Donc vous inquiétez pas, il nous promet que Bobby Lashley sera là, mais à ce moment-là, on se dit, pas sûr de le revoir, le Bobby.
Oui, parce que la fête après la défaite, c'est toujours spécial comme ambiance.
Ouais. L'important, c'est de participer et de gagner quand même, hein, mais c'est bon.
Oui, les premiers. Hein.
Ouais. Bon, on va retrouver tout ce beau monde un peu plus tard dans la soirée, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'eau dans le gaz aussi, il y a un petit peu de sang chaud là entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, on en parlait, Jinder Mahal avait commis un délit. Un délit. Allô. Qu'est-ce qu'il avait fait, Jinder? Qu'est-ce qu'il avait fait, mon bon papy?
Il avait joué avec la grande épée de Drew. On joue pas avec la grande épée de ses copains.
Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Jinder est donc avec il a sa belle moto hein, customisée toujours. Il y a ses deux poteaux là, Vir et Shanky, qui lui ont apporté son épée et il veut s'excuser finalement. Il veut s'excuser auprès de Drew McIntyre. Donc il se retrouve au milieu du ring et puis il dévoile, il appelle Drew, il fait Drew, voilà, je viens m'excuser, voilà ton épée. Mais alors je sais plus comment il tourne ça. Il explique qu'il a customisé l'épée ou qu'il.
Il l'a rendu plus belle en tout cas.
Voilà, il l'a rendu plus belle. Voilà, en Inde, c'est comme ça. Voilà. Customisé aussi. Comme il a customisé sa moto, il a customisé l'épée. Sauf que l'épée, en fait, elle est cassée. Elle a été brisée en deux.
Ça, c'est pas sympa. Hein.
Terrible, terrible. Arthur McIntyre apparaît sur le titantron. Il fait. Hey Jinder, alors il y a un petit peu de souci de synchronisation, on se demande toujours si c'est en live toutes ces séquences ou s'il y a des choses qui sont déjà préenregistrées. Est-ce que tu sais, toi?
Alors là, sincèrement, aucune idée, parce que je pense qu'ils font du live quand même, parce que ça me semble trop compliqué à synchroniser les échanges comme ça à l'avance.
Ouais, c'est un peu. Je pense que c'est un peu jouer avec le feu si un mec est en live et il doit parler à un mec qui a été déjà enregistré.
Parce que déjà, ils ont du mal à synchroniser quand ils sont face à face. Alors, si en plus, synchroniser par rapport à une vidéo, complicado.
Hein. Ah oui, elle est complicado. Mais ce qui est complicado, c'est qu'en fait, Jinder Mahal, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce que Drew McIntyre, voilà, twist digne d'un film de M. Night Shyamalan, l'épée brisée que détient Jinder Mahal n'est pas la véritable épée de la famille McIntyre.
What?
Celle qui a vaincu le monstre du Loch Ness, celle qui a apporté la paix à travers le monde en décapitant des millions et des millions de soldats de moins de 15 ans. Et entre les mains de Drew McIntyre, il nous la dévoile, elle est magnifique cette épée. Effectivement, on voit tout de suite que celle-ci est une vraie. Et la preuve, il en fait une incroyable démonstration. Et ben, en abattant l'arme familiale sur... la moto sur la Harley Davidson de Jinder Mahal qui ne peut rien faire d'autre que d'assister impuissant à la destruction de son véhicule motorisé.
Et oui, il a galéré quand même, Drew, à démolir la moto. Enfin, la moto, c'est une moto. Il tirait, le truc il partait pas. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, le gars il fait quand même 200 kilos. Enfin, c'est une petite moto. On se demande comment Jinder tient dessus. Mais il a fini par la démonter comme il fallait.
On va dire qu'à un moment, il essaie de tirer sur le pot d'échappement, ça vient pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Enfin, il va lui faire une vidange, il lui fait peut-être la révision des 30 000.
C'était pas droit, attends, je le remets.
Sympa, Drew, sympa ces Écossais.
À toujours avoir un garagiste écossais.
Bon, ben voilà, ça continue. Alors, est-ce que mon souhait de retrouver Drew dans une petite rivalité de mid-card, low-card, visiblement, semble s'être exaucé? En tout cas, jusqu'à Money in the Bank. Il m'a l'air déjà occupé ailleurs, là, déjà, Drew McIntyre, j'ai l'impression.
Tu dis juste qu'à Money in the Bank, ouais, je pense que ça serait très étonnant que ça ne se poursuive pas après Money in the Bank, voire durant Money in the Bank.
Durant Money in the Bank, effectivement, hein, on se souvient que Jinder Mahal avait fait planer l'ombre, la une menace, puisqu'il n'était pas content de ne pas avoir eu sa chance pour rejoindre le Money in the Bank, et finalement tout ça n'avait rien donné. Et ce serait étonnant de ne pas voir l'Indien canadien, on dit un Canadien du coup.
Canadien, oui, tout à fait, bravo.
Canadien intervenir, peut-être avec sa moto, une nouvelle moto. Je vois bien arriver là sur le ring, là, monter avec la moto, monter sur l'échelle et aller décrocher la mallette au nez et à la barbe de Drew McIntyre.
C'est un sacré exploit de monter une échelle à moto.
Oh, ce serait une belle cascade, mais retour du public, il faut sortir le grand jeu.
Faut tenter des trucs.
Faut tenter des trucs. Est-ce qu'on tente des trucs dans la division féminine ou il faut arrêter ?
Non, faut arrêter là. Ah, mais on continue.
Bon, backstage, on a des petites séquences. Je crois d'ailleurs qu'il y a une séquence avec Alexa Bliss, qui est sur sa petite balançoire. Ce soir, elle reçoit Eva Marie et Doudrop. Et d'ailleurs, elles sont là. Hein, Eva Marie est sur la balançoire. Doudrop est là aussi. Alors, Eva Marie se moque hein, d'Alexa Bliss, de tout son univers. C'est pas très sérieux, tout ça. Elle est là vraiment. C'est elle qui. Qui tous les regards se portent déjà à Monday Night Raw. Et on voit un peu en arrière-plan Doudrop qui a l'air à la fois, qui a l'air un petit peu intrigué et amusé. Il y a une petite connexion qui semble se faire avec Alexa Bliss. Je ne sais pas si tu as remarqué cette petite connexion, limite de la complicité.
Il y avait du Actor Studio là dans l'affaire, hein, parce que c'était ouh, elle faisait ouh, je fais des mous, attention, c'était gros niveau là.
Ouais, c'était. Enfin, je sais pas trop, là, Eva Marie, elle était un peu entre deux. Il faut qu'elle en fasse plus, j'ai l'impression. Elle n'ose pas encore en faire. Il faut en faire plus, Eva Marie. T'as un personnage complètement over the top qui doit être détestable. Il faut y aller, ma grande. C'est ta chance, là. Il faut la saisir.
C'est ta chance, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'elle est un peu mollassonne, Eva Marie. Hein.
Ah, on est d'accord. Je trouve qu'elle. Enfin, la fille, elle n'a pas été là pendant 6 ans. On lui donne une nouvelle chance avec un gros packaging. Et l'impression qu'elle n'ose pas trop, toi. Il faut y aller, là.
Ouais, elle fait. Ouais, j'ai presque envie de dire qu'elle fait limite dans la facilité pour l'instant. Elle force pas le caractère ni rien. Elle joue la comédie, voilà, la comédie à papa là.
J'ai même l'impression qu'elle est trop gentille et qu'elle réfléchit trop à Doudrop, à sa partenaire. Parce qu'elle veut mettre en lumière plus Doudrop en disant ça rejaillira sur moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, côté un duo, il faut jouer pour toi. Toi, il faut tirer la couverture à toi. Sinon, c'est le monde du catch, c'est impitoyable.
Bah oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'on fait entre nous, hein. Notamment avec ces tocards de Tonton, Ringside, tout ça qu'on n'invite plus.
Non,
parce que justement, on tire la couverture à nous.
Bah oui, hein, ils parviennent à chaque fois à se glisser. On l'a bien vu la dernière fois. Hein. C'est très difficile de se débarrasser de ces deux pots de colle. Mais bon, on essaye. Chers auditeurs, chères auditrices, on essaye. Bon, backstage, Nikki, elle est dans son nouveau déguisement. Elle a essayé un nouveau gimmick. Elle, au moins, elle tente sa chance. Il y a Riddle qui passe. Alors, Riddle, formidable, encore une fois de plus ce soir. Je ne sais plus trop ce qu'il lui raconte, d'ailleurs. Ils parlent tous de... Ah oui, il lui dit, mais pourquoi tu t'envoles pas pour aller attraper la mallette? C'est vrai.
Bah, c'est une... malin, en même temps.
Elle lui dit, bah non, je suis presque une super-héroïne, donc je presque vole, quoi. Donc, il me faut quand même une échelle pour arriver tout en haut. Et Riddle nous explique qu'il avait failli devenir astronaute. Il s'est fait griller la place par un certain Thomas Pesquet lors des séances d'entraînement à la NASA. Et du coup, bah, quand tu peux pas être astronaute, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens...
Alors.
Catcher, ouais, catcher. Catcher, le deuxième métier le plus respecté au monde. Bon, je ne sais pas si les filles nous respectent, mais ce soir, donc, il y avait un match. Alexa Bliss contre Nikki H, c'est comme ça qu'il faut l'appeler dernièrement, Asuka et Naomi. Donc,
les quatre qualifiés.
Est-ce que tu étais content de cette configuration par rapport au précédent de la semaine passée?
Oui, parce que là, au moins, on évite d'avoir quelqu'un qui n'est pas qualifié qui gagne le match, quoi.
Ouais,
c'est toujours ça de prix. Il y en a au moins une des quatre qui devrait s'en sortir.
On va voir. Naomi qui balance un dropkick à Asuka et à Nikki. Bliss qui lui voilà, se défoule en lui balançant des gros coups d'épaule, des gros coups d'épaule sur la pauvre Naomi. Ça saute crossbody à travers les cordes pour un nearfall. Eva Marie et Doudrop qui arrivent assez rapidement. Eva qui dit à Doudrop, vas-y, fous ton bordel auprès d'Alexa Bliss. Mais elle est complètement ignorée. Alexa Bliss n'en a rien à faire. Eva Marie a peur. Eva Marie a peur. Elle hurle, elle crie. Doudrop, elle n'a pas peur. Elle vient protéger sa meilleure copine. Elle tabasse Alexa Bliss. Elle la balance par-dessus la barrière d'insécurité. Alexa Bliss a disparu. Eva Marie est étonnée. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Asuka, pour l'instant, elle s'occupe de Naomi avec, en plaçant une petite souplesse allemande. Nikki et Naomi arrivent à s'en tirer. Mais Naomi place un compte de deux sur les deux femmes au même moment. Et c'est bien Nikki qui parvient à voler la victoire. Avec quoi? Avec quelle prise? Quel finish original avons-nous là depuis 4 semaines?
Un roll-up.
Et ouais, papy vous l'a dévoilé. C'est bien un roll-up pour Nikki qui retrouve le goût de la victoire. Elle est contente, on célèbre tout ça. Voilà. Voilà. Mais au moins, on a fait le boulot. On a compris qu'il y avait une certaine logique dans le build de ce Money in the Bank. Est-ce que tu as été suffisamment convaincu?
Oui, comme tu dis, il y a une logique qui se dégage un peu là-dessus. On a quand même une des concurrentes qui gagne un match, en plus Fatal 4-Way entre des participants. C'est bien, vu que ça sera un match quoi, chacun pour sa gueule, c'est quand même bien qu'ils se foutent un peu sur la tronche. Hormis ça, je crois que c'est Raphaël qui en parle bien sur le Discord en disant que ils utilisent l'artifice de la disparition derrière la barricade pour, on l'espère, la dernière fois, vu que quand il y aura du public, ça sera quand même plus compliqué.
Surtout qu'on sait que le public est impitoyable avec ce genre de truc. Les fameux Roman Reigns Tudor, quand Roman il reste 20 minutes aux abords du ring.
Ils se feront balancer s'ils font ce genre de conneries. Donc qui se méfient, qui font face gaffe à leur gueule. Et puis sinon, bon, après voilà, c'était propre, mais c'est pas non plus super en ballant quoi. Nikki H, vu que c'est son nouveau nom, on en reparlera le jour des pronos venus, mais je ne vois absolument pas comment elle pourrait être une concurrente valable pour le Money in the Bank. Et en fait, je le souhaite surtout pas en fait, surtout pour elle en fait, parce que si jamais j'ai peur que ça fasse un syndrome autiste derrière, hein, parce qu'elle est vraiment dans la ligne directe de la low-cardeuse qui a un petit moment fun et qui du coup a du soutien du public, mais plus du soutien d'estime qu'un soutien de on pense que tu es champion du monde quoi.
Ouais. Ils auraient pu leur filer une petite victoire, voilà, ils auraient pu, ils n'étaient pas obligés de nous placer un roll-up, hein, et quand il y a des matchs comme ça à 3 à 4, tu peux suffisamment. En plus, il y avait Naomi qui était là. Naomi pouvait bouffer le tombé.
Attention à Naomi, j'en dis pas plus.
C'est vrai que Naomi, elle a le profil dans les films de, pour savoir de tueur, où tu dois deviner qui est le tueur, elle a le profil type. Hein, c'est-à-dire, personne ne la soupçonne vraiment, en même temps, on pourrait la soupçonner, on l'oublie, et paf.
En fait, je pense qu'elle est suffisamment oubliée pour faire quelque chose. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais les méfiances Naomi. Juste un dernier point à rajouter. Un truc qui m'a un peu pas fait forcément plaisir en fait dans ce segment là que je trouve un peu naze, c'est à un moment t'as Nikki H et Alexa Bliss qui sont face à face et qui sont limite à retenter les tensions l'une face à l'autre alors que elles étaient meilleures amies puis elles se détestaient puis d'un coup elles ont refait équipe, elles sont d'ailleurs qualifiées en équipe et puis là d'un coup il y aurait des tensions de nouveau entre elles. Non mais arrêtez les conneries là, on n'y croit pas du tout à vos conneries.
On se croirait dans les telenovelas, tu sais, les amitiés se font et se défont de semaine en semaine. Hein.
Là, c'est vraiment effectivement de semaine en semaine.
Bon, dès qu'ils sont pas très potes, c'est les Viking Raiders. Alors, ils sont potes entre eux, hein. Ça, y a pas de problème. Ils vont à leur mariage, ils font des grosses bouffes, ils font des sacrifices humains le week-end, pas de problème. Par contre, avec AJ Styles et Omos, ils sont pas potes. ils sont pas potes, ils veulent apprendre le respect à AJ Styles. Et du coup, ce soir, il y a deux matchs pour régler leurs différends. Un des Viking Raiders, on va dire le premier Viking Raider affronte AJ, et le deuxième Viking Raider,
il affronte Omos. C'est Ivar qui est pour AJ et Eric qui est pour Omos.
Ah voilà, on va y arriver. On va y arriver. AJ, donc, comme à chaque fois, avant qu'un match commence, il nous prend le micro, et il nous raconte sa vie, il nous raconte l'histoire, comment ça se passe dans les coulisses à WWE. Alors eux, vous voyez, c'est les Viking Raiders, lui il s'appelle Eric, lui il s'appelle Ivar. Il dit que les Viking Raiders, enfin il veut s'excuser, il n'aurait pas dû les traiter de barbares, parce qu'effectivement il s'était moqué un petit peu de... C'est moqué de la culture viking, souvenez-vous, c'est moqué de la culture. Et c'est pas bien, c'est mal. On ne peut pas cancel Allô. Une culture comme ça. C'est... Aujourd'hui, on est en 2021, il faut respecter toutes les cultures. Point barre, c'est tout. Mais il promet aussi que. Enfin, il leur a dit que en fait, ce sont pas des barbares, mais des barbares sauvages, en fait. Hein, et qu'il va
se s'occuper de... Des gros barbares puants.
Des gros barbares puants, là, qui se rasent pas, là, qui puent des aisselles, et qui va s'occuper de leur cas, et ils vont les détruire. Premier match, AJ Styles contre Ivar. Ben, le pauvre AJ Styles, il aurait dû tourner sa langue 7 fois avant de parler, puisque ben, il va perdre ce match. Quasiment clean, hein, malgré, je crois, Omos qui a tenté vaguement de l'aider. Il se bouffe une défaite dans un petit match divertissant. Et AJ Styles qui se bouffe une première défaite. Merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas cool. Deuxième match, Eric contre Omos. Et là, papy, là c'est autre chose. Là, c'est quand même autre chose que AJ Styles. D'accord, c'est Omos.
Ouais, il y a de la viande là.
Bah, d'ailleurs, Omos, pour le dernier épisode à Thunderdome, aura droit à son premier match individuel.
Tout à fait. Ouais.
Single match pour Omos. Donc, beaucoup de premières fois et de dernières fois, évidemment, au Thunderdome. Bah, j'espère que vous allez être reconnaissants auprès de Stamford pour tous ces grands moments historiques qu'ils nous ont proposés lors de cet épisode exceptionnel. Eric ne peut pas faire grand chose en fait, hein. Il se bouffe des énormes coups de semelle dans la tronche quand il tente de faire des prises de soumission. L'autre il qu'est-ce que c'est, j'ai un truc qui me gratte derrière le dos, et Omos il le chope, il lui fait un gros câlin, le câlin de l'ours, hein, le beer hug, et bah, on peut voir à ce moment-là l'âme de Eric s'envoler dans les nuages, et Omos donc qui fait un énorme choc slam, hein, pour la victoire. Omos a rétabli l'honneur de son équipe. On donne pas cher de la peau des Viking Raiders pour ce Money in the Bank, n'est-ce pas ?
Bah, je pense pas que ce soit leur moment, en fait, moi, aux Viking Raiders. Ils sont pas... Enfin, pour même si AJ Omos, je pense pas que ça puisse durer éternellement. Mais d'un autre côté, quitte à leur prendre la ceinture, ce serait quand même bien d'avoir une équipe où tu sens qu'ils... Qui voudront faire quelque chose dès le derrière, tu vois. Et les Viking Raiders, bah, s'ils prenaient la ceinture, donc ils ont, enfin, voilà, je sais pas comment dire ça, ils imposent pas assez leur personnalité là pour l'instant. Là. Bah, si c'est pour faire les concours karaoké et le bowling, c'est pas la peine non plus, mais bon, c'est pas. C'était deux matchs courts, sans trop d'intérêt. Et le pauvre AJ, finalement, il est tellement présenté comme le maillon faible que du coup, c'est vraiment laté par tout le monde. Là. Je pense que. Même sa femme et ses filles lui mettraient une bonne branlée à AJ.
Ouais, là il est en creux de la vague, hein, le pauvre AJ Styles. Il a finalement ce titre d'équipe qui lui a permis d'être Grand Slam Champion à WWE. Il l'est devenu un peu. Il en a payé le prix là, il en paye le prix. Tu ne deviens pas Grand Slam Champion à WWE sans en payer le prix, tout simplement. Hein.
Effectivement, il a signé le contrat avec le diable et du coup, maintenant, il en paye le prix.
Sheamus était de retour aux affaires. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
Enfin un beau gosse.
Enfin un beau gosse. Toujours masqué, hein, après s'être fait péter le nez par ce fiefé personnage, ce petit chenapan de Humberto Carrillo, et bien ce soir, il a un match, Humberto Carrillo, pour le titre US face à Sheamus, mais backstage, il s'est fait attaquer, Carrillo, par Sheamus avant le match, il s'est fait démonter, il s'est fait déboîter sa race, il en a vu des vertes et des pas mûres, mais il va quand même, Humberto Carrillo, parce que c'est un jeune qui en veut. Il est courageux, mais il se fait démonter d'un coup de gros broc kick dans la tronche en 18 secondes. Hein. C'est comme ça que c'est la durée d'un match de Sheamus quand il est chaud. 18 secondes pour abattre Humberto Carrillo qui s'est écroulé avant de prendre le broc kick, hein, tellement il vacillait. Il était vraiment pas bien. Il était complètement sonné, Humberto Carrillo. Mais ce qui est important, papy, c'est comme les Marvel. On s'en fout des 2h30 de choses. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après le générique. Et qu'est-ce qui s'est passé après le générique ? Eh ouais. C'est quoi le bonus ? C'est quoi le bonus ?
C'est un brave homme, un super héros qui vient sauver Carrillo parce qu'il non seulement il a perdu, mais en plus il s'est pété la gueule après le match.
Et oui, c'est bien Damien Priest, hein, le rock'n'roll star là. Alors, c'est pas trop vraiment. Il aime le rock, il aime le diable, il fait sûrement des sacrifices avec les Viking Raiders. Il a l'air d'avoir plusieurs centres d'intérêt, Damien Priest, mais là, son centre d'intérêt semble se diriger vers la breloque du roi du broc kick, Sheamus. Alors là, mon papy, je te dis miam, miam, miam. Miam, 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 bah... Damien Priest versus Sheamus en rivalité pour le titre US.
On en va envoyer l'union. Ça va envoyer du nuit.
Ouais. Un peu les deux hommes forts de ce début d'année, hein. Souvenez-vous, hein. Damien Priest est arrivé, il a fait des belles démonstrations au Royal Rumble. Sheamus, je pense que là, le mec, il va peut-être pas toucher le titre mondial, mais il est en bonne place pour être un des top catchers de l'année 2021. Même depuis l'année dernière, il est au taquet. Et c'est des mecs qui ont l'air d'aimer la castagne. Ça, tout simplement, c'est des choses qu'on veut voir. Des mecs qui se frittent, qui se mettent sur la tronche. On en salive d'avance, là.
Yes, on pense que ça peut être des bonnes oppositions. Après, à voir dans quel état encore est Sheamus, parce que, mine de rien, il a juste fait un broc kick. On l'a pas vu encaisser de coups ni rien. Est-ce qu'il est apte à combattre réellement, ça, c'est... On le saura assez rapidement. À noter quand même qu'en coulisses, il y avait déjà eu Priest qui était venu justement convaincre Carrillo de ne pas se battre, mais il ne l'a pas écouté. Ça lui apprendra. Et il y avait aussi Mansour qui était là, bon, on ne sait pas pourquoi. Il s'est pointé, tu t'es dit, tiens, il va peut-être tenter sa chance, mais non, en fait, tu es là, il ne sait pas quoi foutre.
Donc, mais il n'était pas tout seul, t'as vu qu'il était avec Ali.
Ah non, je n'ai pas vu Ali. Ali était là ?
Ali était là, en fait. Prince Ali, sa seigneurie. Allez, pour ta défense. Il n'est apparu qu'une seconde en bord d'écran, limite il était hors caméra, hors champ. Il était dans le coin, il était là aussi. Et il a vu le truc et il s'est barré. Toi, il a pris la décision de ne pas aider Humberto Carrillo. Et là, très intéressant en fait, développement de personnage en 2 secondes. Plus intéressant que développement de personnage peut-être de 50 autres catcheurs et catcheuses à l'heure actuelle. Mansour, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a 2 semaines, il aurait fait quoi, Mansour ? Il serait allé aider Humberto Carrillo, il aurait intervenu, il se serait imposé entre les deux. Et ben là, non, il a suivi Ali.
Ah, j'ai pas fait attention. Ah bah, mais en plus, je précise. Hein.
Et en plus, ça va être mon top de la soirée, alors comme ça, et tu l'as pas vu. Mais non, c'est dur.
Ben non, j'ai vu Mansour mettre sa tête, et j'ai pas compris pourquoi. Après, je voyais plus, je dis, bah merde, alors qu'est-ce qui s'est passé?
Tu sais, c'est le mec qui avait oublié qu'ils étaient en train de tourner. Oh, pardon, excusez-moi.
Mais c'est ça, je me suis dit, tiens, ils avaient besoin de gars pour faire le nombre, donc il y a Mansour qui est là. D'accord, ok, bon, bah, maintenant que tu me précises, effectivement, ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, j'aurais dû être plus attentif.
Et ben voilà, ça vous apprendra à cligner des yeux l'espace d'une seconde à WWE. On n'a pas le temps, il se passe des choses tout le temps. C'est non-stop. Une autre rivalité qui était super bien construite, je trouve. Tu m'en diras des nouvelles, c'est Ricochet versus John Morrison. On est, je trouve, dans une très bonne rivalité construite dans Weekly, avec des beaux enjeux et des beaux matchs qui n'arrêtent pas de monter en intensité et avec des stipulations toujours de plus en plus hautes. Ce soir, donc Ricochet versus John Morrison numéro 3, mais avant ça, on a un petit récap de ce qui s'est passé, Ricochet, Morrison, bon, voilà. Si vous voulez avoir un récap, il suffit d'écouter Catch Up. Nous, vous en faites toutes les semaines, pas de problème. Mais avant ça, On a eu un one-man show de Riddle. Écoute, aux petits oignons, là, il prend soin de nous, là, Riddle. Il arrive avec Ricochet qui est en train de se chauffer. Là, il fait tourner ses petits poignets, là, ses petites mains, sa petite tête. Ouais, il n'est pas très grand, donc voilà, tout ça, il tourne, puis excité, puis il commence à dire ah, comment ça va. Ouais, ils sont excités parce qu'ils vont tous les deux participer à Money in the Bank. Et là, il dit bah, qu'est-ce que tu prévois ce soir? Bah, il dit ouais, je vais me faire un burrito spaghetti et je vais regarder mon western préféré. Et là, l'autre, il lui cite un film, alors j'ai oublié, c'est The Tombstone, je sais pas c'est quoi le.
Oui, c'est ça, Tombstone.
Le titre en français. Et l'autre, il dit bah non, Toy Story 2. Et là, je fais bah ouais, il a raison. Et oui, c'est vrai, le plus grand western des 20 dernières années, Toy Story 2. Et là, il dit il a un serpent dans sa botte et ça lui fait penser à Randy, toi. Effectivement, le serpent dans la botte, une des répliques cultes de Woody, le héros du film. Il fait penser à Randy, Randy la vipère le serpent. Mais Randy, c'est un serpent. Il est plus dans son cœur qu'il n'est dans sa botte. Et là, il dédicace à Randy. Et Randy, on t'oublie pas, Randy, t'es avec nous pour toujours, à jamais. Et là, il explique que si jamais il gagne le contrat, donc la mallette, il va pas cacher sur Bobby Lashley. Il est pas con. Il va pas cacher sur Roman Reigns. Il est pas con. Il va pas cacher sur qui est champion NXT à l'heure actuelle. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les derniers épisodes d'NXT. Parce qu'il est pas con. Non, il va cacher sur les champions tag team de Raw. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être si sur AJ Styles, ça passe.
Voilà, faut bien qu'il se trompe de gars.
Pour devenir champion tag team Raw. Et écoute, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas con. Pourquoi il l'a dit d'ailleurs? Ce serait assez serait dingue. Bon, ce serait du gâchis, mais ce serait assez dingue. Et voilà, donc Riddle qui pense beaucoup à Randy. On pense aussi à Randy ici à Ketchup, hein, n'est-ce pas, papy?
Ben oui, et je finis par m'inquiéter de ne pas voir Randy Orton à l'écran. Est-ce qu'il est juste en vacances ou est-ce qu'il soigne quelque chose
Il s'entraîne avec Bailey.
Il s'entraîne avec Bailey. Oh, merde, c'est mal barré alors. Effectivement, si elle essaie de le porter, je comprends qu'elle se soit pété le genou. Mais ouais, c'est assez étonnant de ne pas le voir. Alors, effectivement, alors, j'ai pas les références Toy Story parce que je n'ai jamais vu Toy Story 2. Donc, j'ai pas forcément toutes les références, mais oui, c'était plutôt bien joué. Et c'est en fait le Riddle habituel qu'on a depuis quelques semaines, non, qui en espèce de fil rouge. Je parle de Randy Orton systématique et non-stop, en fait. Donc, comme un boss. Ouais, donc, bah voilà, c'est bien. Il continue dans sa route.
Moi, ouais. Ouais, j'ai adoré. Hein, vraiment, là, si je pouvais donner mon top, et je peux le faire d'ailleurs, mais mon top, par défaut, mon top va à Riddle. Il est vraiment. Il marche sur l'eau, cet homme. Bon, allez, le match. Johnny Drip Drip versus Ricochet. On fait monter les enchères. Ça place du Starship Pain. Ça saute dans tous les sens. On place des German Suplex. En veux-tu, en voilà. La tête de Morrison qui termine dans les écrans LED. Il monte sur les barricades. Il tombe à moitié. Ricochet place un magnifique 450 degrés là depuis... la barricade pour le compte de deux. Jomo, il sauve. Il place un Shooting Star Press de Ricochet là, depuis le turnbuckle. Assez incroyable. On revient de la pause publicité. Morrison, il a sorti les outils. Il est allé à Castorama. Il est revenu avec son échelle. Il fait un petit pont. Voilà, petite construction. Voilà, parce que on aime bien l'esprit créatif. Entre le ring, il a tapé des annonceurs. Et là, Ricochet, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait un crossbody énorme sur Jomo qui passe à travers l'échelle. C'est la grosse bagarre, puisque ça, c'est un. Ah oui, j'ai oublié de préciser, les messieurs, dames. False count anywhere.
Et oui.
On peut faire le tomber n'importe où, n'importe quand. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jomo, il avait un petit peu oublié la stipu, parce qu'il y a deux fois, il était là, ah oui, merde, le tomber, hop. Donc voilà, on fait monter les enchères, je vous l'ai dit. Ça se bagarre backstage. Et puis Riddle qui débarque, qu'est-ce qu'il fait Riddle? Il vient et il attaque le Miz hein, qui est dans sa chaise roulante.
Il le fait basculer en arrière en fait, comme une tortue.
Ah oui, il le fait. Oui, oui, comme une tortue qui se retrouve sur sa carapace. Donc là, le Miz là, qui bougeait les jambes là, comme quand t'es pris dans un roll-up et que tu sais pas trop quoi faire. Ricochet d'ailleurs, pendant le match, c'est peut-être un peu plus tôt ça. Qui était monté sur la chaise roulante du Miz, qui ont dévalé, ils ont fait. Oh, ça, c'était un peu le. C'était un peu. Il y a eu Il y avait à boire et à manger, il y avait des trucs, c'était rigolo, mais c'était pas super bien exécuté. Un ricochet qui bondit depuis la chaise roulante à 5 km/h au moins sur John Morrison. Et John Morrison, avec l'impact, il roule sur 4 mètres.
C'est ça.
C'est bien d'impression.
Dans la série Z, quoi.
Ouais, ouais, c'est répété au ralenti. Les gars, on a qu'une prise, hein, qu'une prise. Et puis à la fin, Morrison, donc il s'est fait passer. En fait, j'ai un peu tout mélangé. Morrison, c'est seulement à ce moment-là qu'il passe à travers l'échelle, grâce à Ricochet qui bondit dessus pour la victoire. Écoute, probablement le match de la soirée.
Oui, parce que c'est le...
Action, divertissement, fou rire.
C'était le plus complet, on va dire. Même si l'opener entre Lashley et Woods était bien, mais là, tu as quand même plus de contenu. Alors, c'est toujours un peu particulier d'une semaine avant Money in the Bank, de dire, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un match avec des échelles. Et pourquoi tu sors des échelles à ce moment-là? On va en avoir besoin dans une semaine, là. C'est ouais, j'ai jamais trop fan d'utiliser la stipulation, enfin, du moins une partie de la stipulation, en l'occurrence, juste avant le pay-per-view. Tu vois, c'est comme les NSL en go-home show et en show post-NSL. Je trouve ça un peu couillon. Bah, là, ça peut pas le pareil. Tu vois, le fait de la sortie d'échelle, après, le truc est spectaculaire, mais bon, ça va peut-être le faire directement sur la table des commentateurs. À voir. En tout cas, on a bien vu la belle échelle se briser, la belle échelle en bois repeinte en gris métallisé. Elle s'est bien cassée. Et puis sinon, ouais, comme tu dis, hein, c'était plutôt original. Ça se laissait bien regarder. C'était pas non plus le match de l'année, hein, mais en tout cas, c'était divertissant. C'est l'essentiel.
Ah oui, franchement, là, les mecs, ils sont à l'aise. Comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup cette petite rivalité de Weekly, toi, à l'approche de Money in the Bank. C'est très basique, mais finalement... C'est comme ça qu'on peut s'attacher aussi au personnage. Voilà, Ricochet, il faut qu'il se retrouve dans ce genre de match, dans ce genre de rivalité pour que on puisse, voilà, qu'il puisse vraiment s'exprimer. Et vraiment, voilà, je trouve que c'est une belle construction d'une rivalité de... Allez, on va être gentil, de mid-quart d'heure à l'approche d'un des pay-per-view les plus importants de l'année. Et puis, c'était drôle. Alors, voilà, il faut... C'est débile, hein. C'est débile. Mais il y a du débile et du spectaculaire, du coup... Voilà, et puis quand t'as le Miz en plus, là, le Miz, alors lui, c'est le dieu, enfin, peut-être pas le dieu, parce que le vrai dieu de la comédie, c'est R-Truth, mais le demi-dieu de la comédie à la
WWE. Il est pas loin, le Miz.
Ah ouais, il est un peu dans l'ombre, mais tout le monde est dans l'ombre d'R-Truth, donc c'est compliqué.
Et moi, du coup, le fait que le Miz reste sur le dos sans jamais pouvoir se relever, ça maintient mon prono qu'il y aura un miracle de Money in the Bank, lève-toi et marche.
Moi, je vois un truc. Retour du public pour une partie 2. Une échelle, on est à la fin du... Voilà, la grosse tension, tout le monde est un peu à gauche, à droite, il y a eu de la grosse bagarre, tout le monde a failli décrocher la mallette. L'échelle, une magnifique échelle, peut-être la plus grande échelle ou la plus petite échelle, l'un ou l'autre, de l'histoire de W, est placée en plein milieu du ring. Soudain débarque. Jinder Mahal en moto, pleine bourre. Il décolle, il grimpe. Et là, il s'élance. Peut-être que c'est pas l'échelle. Peut-être que des tables sont montées. Enfin, toi, comme les spectacles de cascade de voitures aux États-Unis, ils adorent ça. Et il s'élance sur sa moto. Et là, on pense qu'il va l'attraper. Et non, le Miz s'élance à son tour avec sa chaise roulante. Les deux se rendent dedans. Un énorme impact. Évidemment, ils meurent sur le coup, hein, tous les deux.
Mais, c'est une explosion nucléaire.
C'est une explosion nucléaire. Tout explose. Et puis on se quitte là-dessus, quoi. On se quitte là-dessus. Et là, un nuage de fumée et disparaît.
Et Hans Zogel disparaît. Et Hans Zogel tombe du ciel et attrape la ceinture.
Et voilà, c'est ça. Et un mec qu'on ne pensait pas. Alors, Hans Zogel ou Brock Lesnar qui récupère la mallette. Bon, bref. Vous voyez, tout est possible à l'approche du Money in the Bank. On peut tout imaginer.
Je pense que ce scénario a autant de chances de se barrer que le mien. Ou pas.
Effectivement. Bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus tristes. Rhea Ripley est dans la place ce soir. Elle avait un match contre Natalia. Alors, elle a dit, pourquoi tu acceptes ce match? Elle a dit, bah voilà, moi, on me passe des challenges, je refuse pas. Entre temps, il y a une petite séance nulle de bagarre entre les filles, Natalia, Tamina, qui se battent avec Dana et puis Mandy, voilà, backstage.
Ouais, ça, on s'en fout.
C'est complètement ridicule. Donc, écoute. On a mis garantie, contrôle, qualité, sécurité, fin d'année, là, Natalia, face à Rhea Ripley. C'est difficile de faire un mauvais match face à Natalia. C'est aussi parfois difficile de faire un excellent match face à Natalia. Elle en a eu. Ne me tombez pas dessus. Elle a fait des excellents matchs, Natalia. Mais qui... je suis quasiment sûr que Natalia a... C'est toujours Natalia qui a eu un match avant les gros pay-per-view. Qu'on a mis Natalia en dernier rempart avant les gros pay-per-view pour les challengers ou les champions. À mon avis, elle est très très souvent utilisée juste là pendant les go-home shows. Donc, Rhea Ripley qui place le premier coup, un gros coup dans les côtes là, de Natalia. Tamina qui est dans les parages, elle se bouffe un gros dropkick. Natalia donc qui en profite pour reprendre le dessus, elle place le sharpshooter et Ripley donc le contre et l'envoie dans le turnbuckle, elle attrape Natalia, elle place le riptide, 1, 2, 3, emballé, c'est pesé, mais évidemment Charlotte Flair est là, elle attaque Rhea Ripley pour lui donner une bonne leçon et la place dans le figure four. Charlotte versus Rhea Ripley, on y arrive. Voilà, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que voilà?
Non, ça sert à rien. Ce truc-là, franchement, c'est pas du tout intéressant. Après, je pense comme toi que c'est juste pour rassurer le coup qu'on met Natalia face à Rhea Ripley qui est vraiment en grosse difficulté là depuis qu'elle est montée dans le main roster. On lui met un match avec quelqu'un de sûr pour faire quelque chose qui, comment pour dire ça, qui est honnête. Après. Que dire de plus? Je ne saurais dire de. C'était pas passionnant, mais en même temps, voilà. Qu'on en finisse avec cette. Enfin, qu'ils aillent se foutre sur la gueule au pay-per-view. De toute façon, la rivalité est nulle à chier. Donc autant les voir se battre.
C'est l'heure du MVP Lounge. Ou le VIP Lounge, je ne sais plus. Est-ce qu'il s'appelle toujours MVP Lounge? Je ne suis pas sûr. Hein.
C'est VIP Lounge, non?
C'est VIP Lounge. Mais avant, ça s'appelait le MVP Lounge, on est d'accord, à la grande époque de MVP.
J'ai un doute.
Oh, arrête. Il serait passé à côté de ça? C'est bizarre.
Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir entendu le VIP Lounge. Mais c'est peut-être moi qui me fait des illusions auditives.
Eh ben, nous appelons nos auditeurs et nos auditrices à fact-checker et me dire si c'est le VIP Lounge, si c'est le MVP Lounge et si ça a toujours été comme ça ou pas du tout. Il faut nous dire. Moi, j'ai envie de savoir. Voilà. C'est le branding hein, de cet événement.
Le patron veut savoir.
Je veux savoir. C'est le main event. Donc ce soir, il n'y aura pas de match vraiment en main event. Mais il y aura beaucoup de tension. Il y aura surtout du développement de personnages, vous voyez. Puisque MVP, il est là, il est entouré des ladies. Il y a le champagne. On veut fêter la fin de l'époque Thunderdome. En grande pompe, champagne, avec le champion, avec les filles, avec l'or, avec les paillettes. Mais le champion n'est pas là. Le champion tarde à venir. Le champion tarde à venir, MVP, il est là, il chauffe l'ambiance, il chauffe, chauffeur de salle, MVP, très bon chauffeur de salle, mais ça ne prend pas. Malgré tout, Bobby Lashley arrive, le Almighty WWE Champion est là, mais alors ça ne va pas du tout. On a l'impression qu'il a croisé Baron Corbin avant d'entrer sous titre en trombe, parce que c'est la défaite totale. Et chemise à moitié déboutonnée, la cravate de travers. Il a la tête des mauvais jours. On l'a jamais vu comme ça, Bobby Lashley. Jamais. Peut-être toi, tu l'as déjà vu, mais moi, j'ai jamais vu comme ça.
Non, j'ai pas souvenir non plus. Hein.
Il arrive, il traîne la patte. Il prend le micro. Il lui dit, écoute, MVP, j'apprécie tout ce que tu as fait. Les filles, l'argent, l'or. Tu m'as montré la voie. T'es super. Mais... Kofi, il a raison. Kofi Kingston, il a raison. Ce champagne, là, toutes ces soirées, l'argent facile, les filles faciles, ça m'a rendu soft. Ça m'a rendu un tendre, en fait. Il est devenu un gentil, un tendre. Il se fait battre semaine après semaine par Xavier Woods. Il dit ça avec tout le dédain du monde, quoi. Genre, mec, il se fait battre par Xavier Woods dans son dernier match au Thunderdome. Mais horrible, quoi. Enfin, je suis plus un homme, quoi. Il dit... Cette époque, elle est révolue, fini les femmes. MVP, il a la queue qui frétique, où l'intensité dit, ah tiens, Bobby, ça y est. Fini les soirées. Maintenant, et là, il prend le micro et puis face caméra, quoi. Maintenant, j'ai un seul objectif, un seul but dans la vie. C'est détruire quiconque se mettra en travers de mon chemin, quiconque voudra s'emparer de mon titre, ok? Et là, il envoie un message à Kofi Kingston. Il détruit le VIP Lounge, il en fout partout, là, tout est retourné, là, et tout est cassé, brisé sous les yeux de MVP, qui à la fois effrayé et qui se dit « Ah, il y a peut-être quelque chose à qui se passe ». Le champion, il reprend son micro et il dit « Kofi, je vais te démanteler, je vais te découper, je vais te mettre, t'arracher la tête, te le foutre dans l'anus, prendre la tête de ton copain, le foutre dans ton anus. Je vais... Est-ce que tu as déjà vu, comment s'appelle ce film ?« Human Centipede ». Eh ben, ça va se terminer comme ça pour toi, terminé. Tu vas pas te battre pour le championnat, tu vas te battre pour ta vie, Kofi. Et ce soir, demain, ce week-end, ta carrière est terminée à Money in the Bank. » Boum. Visage serré, les dents serrées. Un nouveau Almighty, un nouveau Bobby Lashley a dévoilé son visage ce soir. Et messieurs, dames, papy, je crois qu'il faut avoir peur. Peur sur la ville.
Ah ouais, peur sur le ring. Oui, bah, c'était quelque chose que, finalement que moi j'attendais en tout cas. Bobby, il est perdu de sa superbe là depuis quelques semaines. On avait vu MVP un peu plus tôt dans l'épisode qui rabotait les filles en disant le Bobby là, on va le requinquer là, les filles, vous allez me le chauffer et tout, vous allez l'encourager, il va être bien. Et directement, il a dit mesdames, c'est pas rien contre vous, mais si vous pouviez partir, en même temps, vu qu'il a tout détruit derrière, c'était pas plus mal qu'il les fasse partir avant. Il a soulevé un canapé avant qu'il a balancé partout sur le ring.
Oh oui.
Le fou furieux. Le mec, c'est vraiment une brutasse, quoi.
Voilà, puis, pour vos futurs déménagements, Heart Business.
Appelez Bobby. Appelez Bobby, c'est. Mais voilà, et je crois qu'il dit un truc du style. On va revenir au basique du Heart Business, c'est-à-dire péter des gueules. Fini le champagne, les filles, tout ça. Maintenant, on revient au business de base du Heart Business, qui est de Heart the People. Et voilà, c'est marrant parce qu'au début, je pensais qu'il allait lâcher
MVP.
Comment il s'appelle MVP. Et au final, j'ai plus l'impression qu'il reprend un peu la main sur leur business en disant non, mais je te remercie pour ce que tu as fait, tout ça. Mais par contre, maintenant, je reprends la main. On va mener le truc à mon rythme. Et je pense qu'il reste pour moi, il reste en association. Enfin, on verra la suite. Oui. Il n'y a que les 10 qui dégagent, quoi. Ouais. C'est pas plus mal. Ce que je dis sur le Discord, c'est que bah, du coup, bah, ça fait un souci. Moi, j'irai quand on fera les tournées de ville en ville. Ils auront juste le Heart Business original, quoi.
Ouais, carrément. Là, c'est. Quelle intensité, là, Bobby. Là. Alors, c'est Bobby Lashley hein, dont on parle. Donc, on part de très, 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 très loin, quand même. Et là, il nous a sorti le grand jeu. Il s'est dit, je vais tout donner pour ce dernier épisode au Thunderdome. Il avait vraiment les veines qui allaient exploser. Il en a beaucoup des veines, hein, Bobby Lashley. Dans le corps humain, il y a 3845 veines. Bobby Lashley, il en a 10 millions. 10 millions de veines.
Il y en a partout, il déborde de veines. C'est un gros
Il a des veines dans les veines. Je ne sais pas si tu te rends compte, Bobby. Donc là, il était bien, bien, bien nerveux, il était veineux. Et il a tout détruit. Et écoute, j'étais... soufflé, hein, on va dire, par ce développement qui était, tu l'as dit, nécessaire. C'est vrai que même nous, on s'empâtait, tous s'empâtait un petit peu dans cette histoire de Bill Ashley avec le New Day. C'était sympa à suivre, mais il n'y avait plus vraiment d'intensité, quoi. Les ladies, là, c'était rigolo, c'était marrant. On passait du bon temps, mais il était passé où, là, Bobby, le Bobby Destructeur? Eh ben, il était là en hibernation, et voilà, qui est ressorti de sa tanière pour tout détruire. Et j'ai trouvé très bien construite hein, cet épisode par rapport à cette histoire-là. Finalement, comme quoi, en un épisode, en un go-home show, des fois, on se dit qu'il ne se passe pas grand-chose. Ben là, tu peux très rapidement redonner du souffle à une rivalité, à un match et à un personnage. Et d'ailleurs, je suis comme toi, je suis... agréablement surpris et très content que son association avec MVP ne soit pas jetée. Au contraire, je trouve même qu'il gagne plus, plutôt que de s'en débarrasser et de le jeter avec le reste des meubles, il gagne plus à reprendre le contrôle, à redevenir le mâle alpha qu'il était, qu'à se débarrasser de MVP finalement.
Yes, c'est ça. Il reprend le contrôle sur la dynamique du duo.
Ouais, voilà. Il redevient le dominator. Bon. C'est comme ça que se termine cette Épisode exceptionnel de Monday Night Raw pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le go-home show pour l'un des pay-per-views les plus attendus de l'année, Money in the Bank. Et bah, comme vous l'a dit Papy en début d'analyse, c'était le dernier épisode, et je l'ai appris en même temps que vous, c'était le dernier épisode de Thunderdome, puisque bah, pour SmackDown, nous serons en extérieur, pique-nique, hein, voilà, sur l'esplanade du... L'esplanade du Texas, voilà. Si vous cherchez, on cherche l'esplanade Texas, ah bah c'est par là. Allez-y, monsieur, allez-y, madame. Dernier épisode de Thunderdome. Alors, je sais pas si t'as encore un petit peu le temps ou pas, mon papy, mais je voulais une petite question à te poser. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette période Thunderdome ? Si le Thunderdome est derrière nous pour toujours.
Alors, j'ai plus de temps pour te répondre, en réalité, mais.
Ce sera peut-être l'occasion de faire un bilan, je pense.
Exactement, un compteur de cash dédié ou pas explicité, mais je pense que c'était quelque chose qui était une bonne idée vu la situation, mais qu'il fallait absolument terminer parce que c'était en train d'anesthésier un petit peu le cash quand même.
Ouais, je suis d'accord. Bon allez, le mot de la fin, puisque Papy a des obligations. Top, flop et note, s'il te plaît.
Tout à fait. Alors, pour aller très vite, mon top, je vais le donner à Bobby. Bobby qui revient aux affaires, qui remet le Hurt Business dans le bon sens de la marche. C'était effectivement, comme tu as souligné, c'est très bien amené au fil de l'épisode. Entre un début, on commence avec Bobby qui au fond du trou, on finit avec un Bobby qui est plus fort que jamais. Et moi, j'ai trouvé la manière de l'amener superbement bien faite. Mon flop, j'ai pas forcément d'idée sur le flop. Je vais le donner à AJ Styles qui se fait vraiment trop laper la gueule. Voilà, je veux dire ça, c'est ouais. Il passe vraiment trop pour une lavette. Je comprends que ce soit pour mettre Omos super fort, mais c'est quand même un petit peu embêtant pour un grand slam champion de se faire autant laper la gueule. Et ma note, comme d'hab, elle va être un peu relevée par la qualité du main event, qui du coup avec une image finale aussi forte, ça redonne un petit peu de goût à ce SmackDown, j'allais dire à ce Raw. Mais je note, ça reste comme assez moyen, je suis content de quitter Thunderdome et donc je donne un 275.
Ok, bah écoute, mon top, c'est le même que toi, Bobby Lashley. Mon flop, j'ai pas de gros flop, mais je vais le donner. J'aurais bien aimé que Nikki gagne de façon plus, voilà, pas sur un roll-up, qui est vraiment une belle petite victoire. Et puis, bah, ma note, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, je lui donne un 325 pour ce dernier épisode à Thunderdome. C'est l'heure de se quitter. Catch up, vous voulez bien nous retrouver, s'il vous plaît, tous ensemble pour le podcast. C'est évidemment sur YouTube que ça se passe, mais également en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les plateformes audio de podcast, ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up CDC, le lien pour Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous balancer votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Papy, merci de ta présence.
Merci à toi, patron, pour cette animation fort belle pour cet ultime Thunderdome. Je suis fier d'avoir été présent dans cette émission.
Eh ben oui, bah écoute, plaisir partagé. Je ne savais même pas que c'était le dernier, je m'en étais pas rendu compte. Du coup, le plaisir est décuplé par cette nouvelle information qui est tombée lors de l'enregistrement de cet épisode spécial. On vous donne rendez-vous donc très bientôt pour l'analyse de SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous. L'homme qui a la classe. Allez, c'est un rabbit ball.